C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie.
Bonsoir, Roselyne.
Alors, mardi, François Bayrou a une fois de plus échappé à la motion de censure. Le Rassemblement national magnanime, cette fois, a refusé de voter avec la gauche. C'est un répit pour le Premier ministre qui, comme son prédécesseur Michel Barnier, se retrouve entre les mâchoires et le bon vouloir des députés du groupe dirigé par Marine Le Pen. Les députés du Rassemblement national disent se réserver pour l'automne à l'heure des choix difficiles sur le budget. Dans un rapport de la Cour des comptes, l'institution sonne encore le tocsin. Le report des efforts n'est plus possible. L'actualité de cette semaine, c'est aussi cette étrange rencontre entre Nicolas Sarkozy et le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Et la gauche, qui, à l'initiative de Lucie Castet, veut trouver un candidat unique pour 2027, encore une mission qui semble impossible, puisque Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon ont d'ores et déjà refusé. On en parle avec Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Roselyne.
Carole Barjon, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir à vous, ma chère Carole.
Bonsoir, Roselyne.
Bonsoir, Stéphane, rédacteur en chef à Ouest France. Merci
bonsoir
d'être avec nous. Et en fin d'émission, Véronique Reissoult nous rejoindra pour la chronique sur la politique sur les réseaux. Donc François Bayrou passera l'été. Il a échappé par les bonnes grâces du RN au coup près de la censure. Mais Marine Le Pen sera-t-elle aussi magnanime encore longtemps? On l'écoute.
Il faut être honnête, nous n'avons pas une confiance absolue dans la capacité de François Bayrou à s'opposer au macronisme qu'il a accompagné durant 8 ans et donc à rompre avec l'idée qu'il faut toujours taper sur les Français, toujours taper sur les mêmes pour résoudre les difficultés que le macronisme a créées. La proportionnelle, certes, est un moyen de faire fonctionner mieux la démocratie, mais ça ne suffira pas. Il le sait d'ailleurs, François Bayrou, nous lui avons dit, il n'y a aucune difficulté là-dessus.
Voilà François Bayrou qui est prévenu. Donc le Rassemblement national attend les décisions qui seront prises sur le budget. Et c'est là que les choses risquent de se corser, Jean-Marie.
Oui, c'est très difficile comme équation, l'équation budgétaire. Alors là, le message de Marine Le Pen, apparemment, c'est de dire il n'y aura pas de pacte de non-censure si vous faites la proportionnelle. Ce qui est quand même une des très vieilles revendications du Rassemblement national. Donc ça complique un peu plus encore la tâche de François Bayrou, parce qu'il est devant une équation où à la fois il y a division à gauche, parce qu'à gauche on vous dit il faut plus d'impôts, à droite on dit surtout pas d'augmentation d'impôts, mais en baisse de dépenses, il y a cette coupure-là. Il y a aussi l'obligation dans laquelle se trouve le gouvernement de trouver un chemin, et pour trouver un chemin, ce qui est le plus vraisemblable, c'est qu'il y aura un peu de tout. Donc il peut y avoir un gel des dépenses d'une part, mais il peut y avoir aussi quelques recettes qui augmentent. Donc ça ouvre la voie aux critiques des deux côtés. Et le gouvernement ne sait pas vers quel endroit il penchera. Il y a ceux qui disent, de toute façon, il faut un budget de rupture, il faut un choc pour que l'opinion comprenne que vraiment la situation est difficile et qu'il faut faire les efforts nécessaires pour se redresser. Puis il y a ceux qui disent que c'est plus compliqué, il faut surtout pas casser la croissance, parce que la croissance est fragile, parce qu'on voit bien que le chômage recommence à augmenter, donc il faut interrompre cette réaugmentation du chômage dans un moment où les chefs d'entreprise sont perdus, parce qu'on est dans une période d'instabilité totale, qui peut ressembler par certains côtés à la fin de la 4e République, où on a le sentiment d'un gouvernement immobile. Alors l'Assemblée est incapable de se s'organiser et d'organiser des coalitions en son sein qui soient majoritaires, d'une part, et le gouvernement lui-même est empêtré dans des querelles internes à son propre bloc. On a le sentiment que le bloc central, dit central, qui soutenait le gouvernement, est en voie d'éclatement là aussi. Donc on est dans une confusion assez totale. Ouais. Et donc c'est dans ce contexte que François Bayrou doit annoncer un effort budgétaire conséquent et qui soit de nature à rassurer les milieux économiques pour que la croissance reparte, rassurer les marchés pour nous éviter des incidents du type de ce qu'a connu la Grande-Bretagne avec un Premier ministre qui est obligé de partir parce que les marchés
ont signé la fin
de la récréation. C'était Liz Truss. Parce que, donc voilà, on est dans une extrême confusion. C'est un moment très, très difficile.
Alors, c'est ce que dit aussi la Cour des comptes. On va y revenir. Mais Catherine, c'est vrai que Bayrou va être entre le marteau et l'enclume, si je puis dire, avec aussi un Laurent Wauquiez qui montre les dents sur les éventuelles hausses d'impôts. On va l'écouter et on en reparle.
Très clairement, l'objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour que François Bayrou comprenne qu'on ne votera pas un budget avec à nouveau des augmentations d'impôts. C'est impossible. On a le record des prélèvements obligatoires en France. C'est ce qui est en train de tuer notre pays. C'est toujours la France qui travaille, les retraités, les classes moyennes qui payent. Stop.
Est-ce qu'on peut faire des économies, ces 40 milliards d'économies, sans passer par la case impôts ?
Bah, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle les impôts. Parce qu'on peut aussi dire qu'il y a beaucoup d'aides qui viennent aux entreprises, par exemple. Là, actuellement, il y a une commission d'enquête au Sénat qui vient de rendre ses conclusions et qui montre que ce sont des dizaines de milliards tous les ans qui sont versés aux entreprises sans absolument aucune contrepartie, aucun contrôle. On sait que quand vous avez le RSA, vous devez montrer que vous cherchez du travail ou que vous travaillez 15 heures par semaine. Par contre, l'argent qui est donné aux grandes entreprises, et c'est beaucoup plus que 40 milliards qui sont déversés de mémoire, mais je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 70 milliards qui sont versés aux entreprises. Donc Carole confirme, c'est plus de 70 milliards qui sont versés aux entreprises en aide par l'État, et c'est le premier poste. En fait, c'est au-dessus du budget de l'éducation nationale, les aides aux entreprises. Donc, est-ce que ce sont des impôts ou est-ce que ce sont des aides qu'on pourrait reflécher autrement ? Ça, c'est une question. Mais en fait, tout ça, ça nous montre qu'on est dans une situation d'extrême urgence et qu'on aurait peut-être besoin de s'interroger sur les priorités et la manière d'attribuer d'allouer nos moyens. Parce qu'on ne peut pas passer du rabot partout. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se dit beaucoup, c'est qu'on va faire une année blanche. C'est ça qu'on entend. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Ce n'est pas vraiment de la grande politique. Mais comme vient de le dire Jean-Marie Colombani, pour faire de la grande politique, il faut avoir un peu de force politique. Et là, aujourd'hui, non seulement les forces à l'Assemblée sont éclatées, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont aussi divisées. Donc, c'est compliqué.
Carole, François Bayrou disait « Je ne ferai rien », il y a quelques semaines, sans l'aval des Français. En gros, si l'opinion n'est pas avec moi. Mais là, c'est un peu tard.
C'est surtout
en appeler à l'opinion en pleine vacances.
Le problème, c'est que il est aujourd'hui le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République après Edith Cresson. Donc, c'est dire où il en est. Ce qui, évidemment, ne facilite pas sa tâche, c'est clair. Puisqu'au fond, les Français pensent qu'il est immobile, qu'il ne fait rien, qu'il procrastine, etc. Ce qui n'est pas faux, mais j'y reviendrai. Même le président de la République, quand il était au sommet de l'OTAN à Oslo, a dénoncé l'immobilisme. Ce qui, pardon, m'est un peu gonflé de sa part, parce que si on en est dans cette situation, c'est quand même bien à cause de sa dissolution. Je ferme la parenthèse. Donc, Bayrou est impopulaire, les Français ont bien compris qu'il a lancé toutes ses concertations, ce conclave, etc., pour gagner du temps. Voilà. Et effectivement, dans la majorité, c'est la pagaille. Enfin, la majorité, pardon. Le socle commun. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Bon, donc on peut penser qu'il aura un mal fou. Alors, moi, je voudrais juste prendre sa défense sur le côté immobilisme, malgré tout. Parce que qui aurait fait... différemment à sa place. Alors peut-être avec une personnalité différente, peut-être une incarnation plus forte, un côté moins lent, etc.
Mais c'est soit l'instabilité, soit l'immobilisme.
Mais honnêtement, sans majorité, on ne peut rien faire.
C'est lui qui l'a voulu.
Et quand on dit que, par exemple, Emmanuel Macron songe à nommer Sébastien Lecornu, à supposer que François Bayrou soit censuré à l'automne, mais... Qu'est-ce qu'il y aura de différent ? Qu'est-ce que ça changera ? Donc, je pense que c'est une équation, Jean-Marie a dit, extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Moi, je pense que c'est quasiment impossible. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée de la dissolution circule à nouveau. Mais je ne vois aucun parti... accepter un budget qui taillerait dans les dépenses... Donc ça sera refusé par la gauche, ça sera refusé par le Rassemblement national. Je ne vois pas comment ça passe. La question étant de savoir, quand même, si le Rassemblement national voterait une censure, parce que moi, je n'ai toujours pas bien compris.
Pourquoi il ne la votait pas, là ?
Non. Il voulait attendre le budget, qui est un rendez-vous
le gros morceau.
Important. C'est plutôt que si jamais... Donc, Bayrou est censuré. et qu'après tout, plutôt que de nommer le cornu ou quelqu'un d'autre,
c'est pas une question
Emmanuel
de personne,
Macron
c'est une question
décidait de dissoudre, Marine Le Pen ne peut pas se représenter aux législatives.
Tout à fait. Stéphane, on tourne en rond.
Oui, clairement. Alors ça a été très bien dit. La confusion est assez totale. Je reprends les mots de Jean-Marie. L'équation, en réalité, elle est impossible à résoudre. Il n'y aura que des mécontents. Et moi, je vous le dis, de toute façon, le gouvernement Bayrou tombera à l'automne. C'est pas possible. On voit, vous avez passé le petit son de Laurent Wauquiez. On voit très bien qu'il se prépare. Même les alliés des Républicains qui ne sont pas des alliés, en fait, vont lâcher ce gouvernement en race campagne. Donc vous aurez une coalition des malcontents qui se formera au moment du budget. Moi, j'ai même envie de vous dire, elle se fera dès la reprise parlementaire. Et c'est en octobre que ça va se jouer. Je vous rappelle que le Rassemblement national annonce depuis près d'un an maintenant qu'il y aura une dissolution, qu'il y aura des nouvelles législatives. Il s'y prépare. Il ne cesse de le dire et de le redire encore récemment. Et ils vont tout faire pour que le gouvernement Bayrou tombe. Mais que les suivants aussi, un gouvernement le cornu, etc., qu'il n'y ait pas d'alternative. Le président de la République dit lui-même, il y a assez peu de temps, qu'en fait, il n'était pas du tout favorable à l'idée d'une dissolution. Il a déjà fait la bêtise une fois, il n'a pas envie de recommencer. Mais que si on était dans une situation de blocage, il aurait guère le choix. Et en fait, on y va tout droit à la situation de blocage. Et alors, ce qu'il faut comprendre, et je réponds à la question de Carole, c'est qu'en fait, l'idée que Marine Le Pen ne pourra effectivement pas se représenter en cas de législative anticipée, je veux dire, c'est pour le Rassemblement National. C'est pas une question, c'est pas un problème. C'est pas ça son objectif. C'est pas ça l'objectif du RN. L'objectif du RN, c'est de prendre le pouvoir. Et eux considèrent...
Et donc la présidentielle.
Alors, eux considèrent que le chemin qui leur manque un élément pour gagner la présidentielle en 2027, c'est de faire la preuve, la démonstration que eux au pouvoir, c'est pas le chaos, c'est pas la division, c'est pas le déchirement de la France, c'est pas donc ce qu'ils veulent, c'est des législatives anticipées avec l'idée qu'ils vont les gagner pour pouvoir faire la preuve que à Matignon, avec un gouvernement Rassemblement National, ils ne mettent pas la France à bas. Et donc, on peut leur faire confiance pour la présidentielle.
Encore faut-il qu'il y ait une dissolution.
Alors, et ça, il faut qu'il y ait une dissolution. Il faut qu'ils gagnent des législatives anticipées, ce qui est très loin d'être fait. Ça fait beaucoup de si. Mais je vais vous dire juste un tout petit truc. C'est que moi, je pense aussi que cette stratégie-là du Rassemblement National, elle est aussi l'expression du fait qu'ils sont pas au mieux de leur forme et qu'ils ont aussi besoin de se relancer. Et il y a un côté va-tout dans cette histoire. Je pense qu'eux se disent qu'ils ont besoin des législatives anticipées en disant « on va les gagner », c'est un peu la méthode Coué, mais aussi parce qu'ils sont en méforme et ils ont aussi besoin de se relancer.
Notamment,
en tout cas, l'alignement des planètes est là et moi je pense que je ne vois pas comment le gouvernement Bayrou peut sauver sa
place. Ils sont en méforme, c'est vrai, notamment parce qu'ils craignent un peu l'effet Retailleau.
Oui, aussi. Oui,
alors... Ouais. Moi je crois qu'on ne mesure pas le niveau de division à l'intérieur des deux autres blocs. Je pense que c'est très compliqué pour le bloc central qui quand même comporte les macronistes qui ne sont pas blancs dans la situation économique de la France. Macron a fait des choix économiques qui ne s'avèrent pas probants. On est quand même dans un niveau de déficit dont il aura à rendre compte d'une certaine manière, lui et les gens qui le soutiennent. Et il y a une rivalité très forte. Donc du coup... En cas de législative anticipée, c'est pas très facile de s'en sortir. Et puis à gauche, on va y revenir certainement tout à l'heure, mais la gauche n'est pas certaine de renouveler le nouveau Front populaire dans sa configuration de 2024. Ce qui donne un seul groupe vraiment soudé, c'est le groupe Rassemblement National. Moi, je pense que s'il y a une dissolution, le Rassemblement National est en très bonne position. Quand bien même il y a des bisbilles en interne, plus soudés, les plus forts. Et dans ce cas-là, avec notre système électoral, c'est eux qui gagnent.
Et les bisbilles, en plus, les bisbilles en interne du Rassemblement National, c'est un truc, j'ai envie de... Enfin, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un truc de journaliste. Moi, je ne pense pas qu'il y a des bisbilles aussi fortes qu'on le dit entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. On parlera peut-être du rendez-vous entre Bardella et Sarkozy. Ouais. Mais en fait, vous voyez bien qu'ils sont en train de s'aligner. Pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas la censure contre les retraites ? En disant, on va pas censurer le gouvernement avant l'été, ce n'est pas le moment, on se réserve pour le budget, etc. Mais c'est aussi un pas ou un message ou un signal envoyé vers un électorat qui veulent ménager. En fait, ils sont en train de chasser, ils préparent l'électorat de droite classique
à voter pour eux.
Pour l'automne. Le rendez-vous entre Bardella et Sarkozy, Il s'inscrit alors, dans ce cadre-là.
Oui, mais enfin, il y a quand même un débat.
Il se prépare.
Il y a un débat en interne pour savoir s'ils perdent les catégories. Parce que gagner les bourgeois du 16e arrondissement, ça pèse moins que de perdre les catégories populaires du Nord-Pas-de-Calais. Il y a plus de monde quand même qui est concerné par la question. Ben, voilà, donc c'est ça l'enjeu. Leur débat interne, c'est au fond, on s'est installé sur un certain discours qui, quand même, Marine Le Pen a gagné dans le monde populaire avec l'image que c'est elle qui défend, ou qu'elle participe à défendre leurs intérêts. Si elle n'apparaît plus comme telle, je pense que c'est compliqué pour le Rassemblement national.
Ils sont
national.
Complémentaires tous les deux, entre Jordan Bardella et Marine
Le Pen. J'entends bien, mais il n'y a quand même pas,
sur les deux fronts,
y a quand même pas alors, un seul point de vue au RN.
Ce qui est préoccupant en attendant, c'est qu'il y a des urgences. Et que face à ces urgences, à quoi s'occupent les politiques, à ce qu'on vient de décrire, et notamment au fait que qui aura son candidat pour exister, etc. Donc il y a une profusion de candidatures, il y a chaque jour à peu près, j'exagère, mais un candidat nouveau qui apparaît.
Le dernier
en date, Dominique de Villepin, chacun se présentant comme le futur sauveur, ainsi de suite. Et pendant ce temps, tout est bloqué. Donc c'est l'image même quand même de l'irresponsabilité. Et là, on va avoir un gouvernement qui va prendre ses décisions, qui va annoncer des choses, des choses qui ne seront pas populaires nécessairement, et donc qui vont provoquer un désordre supplémentaire à l'Assemblée. Et donc, on va, voilà, le gouvernement, d'une certaine façon, fera son métier. Parce que c'est prévu à la mi-juillet, je crois.
Les annonces.
Mais ensuite, à la rentrée. Mais il y aura de la substance.
Non, mais justement.
Et cette substance, on sait déjà qu'elle sera impopulaire. Et pendant ce temps, vous avez un certain nombre d'experts, et non des moindres, qui disent attention, l'eau monte. L'eau continue de monter. Parce que la dette continue de croître, et ainsi de suite. Moi, je ne pense pas qu'on ait menacé d'une crise financière à ce stade. Je pense qu'en revanche, tout le monde est menacé par une énorme crise financière, mais ça nous détourne. C'est à cause du fameux budget de Donald Trump, qui est totalement avec la création d'un déficit gigantesque. Mais gigantesque comme on n'en a jamais vu, et qui va fragiliser les États-Unis et va peut-être provoquer une onde de choc sur les marchés qui va nous rattraper. Et si elle nous rattrape, ce sera désastreux parce que la France sera moins bien placée de tous ses partenaires européens. Voilà, on est dans ce contexte. Et malgré ce contexte, regardez de quoi sont faits les débats aujourd'hui, de quoi sont faits les préoccupations des partis et autres. Il suffit de regarder le désordre qu'il y a à l'Assemblée, il suffit de regarder les proclamations des uns et des autres, on est dans tout autre chose, on est dans un film comme si on était toujours dans la normalité, comme si la 5e n'avait pas été gravement affectée et par la dissolution et d'ailleurs par le quinquennat, et donc on voilà comme si de rien n'était. Mais non,
ce qui va aggraver les choses, parce que Jean-Marie parle à juste titre de mesures qui seront impopulaires, elles seront impopulaires, et en plus on sait qu'elles ne seront pas adoptées, puisque on vient d'en parler. Donc ça va renforcer en réalité le sentiment d'impuissance totale de l'État. Et du coup, pour en venir à ce que nous disions précédemment, ça fait le jeu effectivement du Rassemblement national.
Parce que je voudrais qu'on en revienne à ce rendez-vous effectivement entre Bardella et Nicolas Sarkozy et Catherine Boulier.
Je voulais juste dire que je partageais totalement votre constat, Jean-Marie, mais le problème c'est que pour en sortir, je ne vois pas d'autre solution que la politique.
Donc il faut la débloquer.
Il faut la débloquer. Alors peut-être que ça fait rire tous ces candidats, mais en même temps, il n'y a pas d'autre voie. Ce n'est pas parce qu'on va agiter les menaces, je ne sais pas quoi, des agences de notation.
Ce n'est pas des menaces, devrait contribuer à la prise de conscience.
Dire, c'est que cette prise de conscience ne suffira pas pour trouver la solution. Il faut qu'il y ait un accord politique dans le pays pour trouver des solutions. En dehors de la politique, je ne vois pas d'autres voies.
Non, mais bien sûr.
On
le voit pas bien venir.
Je suis d'accord.
Stéphane, un mot. Vous en parliez de ce rendez-vous entre Jordan Bardella, donc le patron du Rassemblement national, et Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se sont rencontrés dans les bureaux de l'ancien président de la République. Faut-il voir dans cette rencontre un message politique ? C'est-à-dire, Nicolas Sarkozy avait asséché le marais lepéniste en 2007. Est-ce que Jordan Bardella se dit pas « je vais effectivement séduire ce qu'il reste des conservateurs qui sont encore attachés à Sarkozy ?»
Il y a sûrement un message politique, mais il faut le décrypter. Alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est l'intérêt réel de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'il reçoit Jordan Bardella ? Bon, effectivement, là, c'est un brouille un peu les pistes. Par contre, l'intérêt de Jordan Bardella, je le vois bien. Jordan Bardella, par rapport à Marine Le Pen, qui a une assise très populaire, pour ne pas dire populiste, enfin voilà, l'image que s'est construit Jordan Bardella, c'est celle d'un libéral qui croit à l'union des droites, à la possibilité d'union des droites. Et donc, quand il va voir Nicolas Sarkozy, je pense que c'est aussi pour travailler cette image-là, en fait. Et, encore une fois, draguer un électorat républicain, enfin, voilà, une droite plutôt classique, et d'être dans l'idée d'une ouverture. Je vous rappelle aussi, enfin, je vous signale que sur ce rendez-vous-là, Marine Le Pen a donné son aval. Elle était au courant, elle était d'accord pour qu'il aille voir Nicolas Sarkozy. Et elle dit, mais oui, il se prépare pour Matignon, donc c'est normal qu'il voit d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres, il faut qu'il en voit d'autres. Et donc, ils sont vraiment dans ce récit-là, hein, c'est-à-dire, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, il se prépare, tout va bien, il continue.
Et d'avoir un peu le temps pour
aussi, il cherche à élargir le spectre.
Je pense aussi qu'il y a un côté... je pense que Nicolas Sarkozy est sous le choc de l'émotion. Et l'émotion a été provoquée par la suppression, sa désinscription de la Légion d'honneur. À tort, à mon avis, parce que l'argument de sa défense était très, très audible. Enfin, on pouvait très bien accepter l'argument de la défense qui consistait à dire qu'il n'avait pas été décoré pour ses mérites personnels, il avait été décoré ex-qualité. Oui. Et donc, ex-qualité, il a été président pendant 5 ans, on ne peut pas lui enlever des années de présidence, donc ex-qualité, on ne pouvait pas lui enlever son cordon de la Légion d'honneur. Je pense que cet axe de défense-là eût été préférable. Mais surtout, ce qui a, je pense, blessé Nicolas Sarkozy, c'est que le président de la République avait dû lui promettre qu'il ne serait pas privé de son cordon de la Légion d'honneur. Et que donc Emmanuel Macron n'a pas tenu cet engagement. Donc du coup, la blessure est, à mon avis, très forte et très profonde chez quelqu'un qui est beaucoup plus affectif qu'on ne peut le croire. Je pense que c'est ça qui est au cœur de la démarche côté Sarkozy. Par ailleurs, c'est quand même un signal très clair sur le thème « on va vers l'union des droites ».
Oui.
Au mesure que le champ de LR se rétrécit, et il va se rétrécir parce que plus les jours passent et plus Bruno Retailleau va sur les terres du Rassemblement National, donc on va se dire, si Retailleau parle comme Ciotti, pourquoi ne pas faire comme Ciotti, je veux dire, c'est cela qui est en jeu, et de ce point de vue-là, le porte-parole de l'Union des droites, c'est quand même Jordan Bardella, plus que Marine Le Pen.
Oui. On peut imaginer un scénario.
On peut voir les choses aussi à l'envers.
C'est-à-dire
Non, enfin, je trouve que effectivement, Jordan Bardella, en allant voir Nicolas Sarkozy, a l'air de rechercher sa caution d'une certaine façon. Et ça, je trouve que ça n'est pas un signe de force en politique. Parce que, a priori, il n'a pas besoin de la caution de Sarkozy. Le Rassemblement national, quand même le premier parti de France, oui. Non, maintenant, c'est LR, maintenant. Donc, il n'a pas besoin. Et à l'inverse, est-ce qu'au fond... Sarkozy, en recevant Bardella, pour les raisons qu'a très bien dites, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie à propos de la Légion d'honneur, etc. Mais au fond, est-ce que ça ne donne pas aussi l'image que LR peut s'élargir ailleurs ? Et donc, on en revient à une union des droites qui n'est pas, qui ne serait pas une union des appareils, évidemment, mais... que LR peut attirer.
Oui, oui. Donc, enfin, une proximité idéologique, ça, on la connaissait depuis longtemps. Nicolas... Mais là, c'est juste une question de cordon sanitaire qui, la corde est pétée.
Exactement. Je retiens tout à fait ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y avait quand même pas eu... Jordan Bardella avait été reçu par Emmanuel Macron dans le cadre des fonctions républicaines. Là, on le reçoit, il n'a aucune obligation à être reçu. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on lui apporte du crédit, de la légitimité... Nicolas Sarkozy lui apporte du crédit. Pour quelle raison il le fait ? Parce qu'il a été blessé ? Peut-être. Mais en fait, d'une certaine manière, moi, ça m'est un peu égal. Il est quand même un monsieur qui n'est pas un perdreau de l'année. Il est capable de ravaler ses blessures personnelles, ses humiliations et ses rancœurs. Là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il ouvre la porte en légitimité à Jordan Bardella, lui, Nicolas Sarkozy, qui a tellement travaillé à l'union des LR avec Emmanuel Macron. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il est quand même une tête de pont entre Emmanuel Macron, les LR et l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est quand même, il se redonne une place dans le jeu politique, ça, ça pour flatter son ego, mais au-delà de ça, la responsabilité de la construction de toutes ces passerelles, de ces porosités qui vont de la Macronie jusqu'à l'extrême droite, bah écoutez, ça s'est déjà produit dans l'histoire. Ça s'est déjà produit en France, ça s'est déjà produit dans d'autres pays, c'est catastrophique. Voilà. Je trouve que c'est catastrophique ce qui se passe, quelles que soient les raisons intimes et je ne sais quoi de Nicolas
c'est
Sarkozy.
C'est le scénario à l'Italie.
Je ne mêlerai pas la Macronie en général. Non, parce mais enfin, il y a plusieurs clans dans la Macronie.
Vous avez raison.
Par exemple, Horizon. Alors, c'est vrai qu'Horizon, Édouard Philippe est peut-être tenté par un discours sur l'union des droites. Je ne sais pas. Mais d'autres, non, d'autres ne le seront jamais. Mais d'une façon générale, c'est l'air du temps qui commande aussi, parce que l'air du temps impute à la gauche la responsabilité du Front républicain et du barrage. Donc, comme la gauche est vaincue et défaite, etc., on peut se débarrasser du Front républicain, ainsi de suite. En réalité, la ligne de partage, le Front dit républicain, l'étanchéité entre la droite et l'extrême droite, la paternité, c'est Jacques Chirac.
Oui.
Et donc, c'est Jacques Chirac. Et donc, en bon enfant de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy aurait dû tenir sur cette ligne. Manifestement, il ne le fait plus parce qu'il considère. D'abord, il est très critique d'Emmanuel Macron, mais il est critique d'Emmanuel Macron au-delà de ce qu'on peut imaginer, d'une part. Et d'autre part, il s'est converti à l'union des droites. Vraisemblablement, c'est ça que ça veut dire.
Je voudrais qu'on dise un mot, si on a le temps, de la gauche, qui cherche toujours le chemin de l'union, depuis longtemps. Donc hier, Lucie Castel, l'ancienne prétendante à Matignon, a réuni les patrons du PS, des écolos, pour trouver une ébauche d'union, mais trois absents sur la photo. Glucksmann, Mélenchon et le communiste Fabien Roussel. On va écouter François Ruffin, qui, lui, est dans le bateau Castel et de cette initiative, qui a créé d'ailleurs son mouvement. On l'écoute.
Nous avons acté à la fois que nous aurons un programme commun et que nous aurons un candidat commun. C'est pas rien. C'est pas rien pour desserrer l'étau entre l'extrême droite et l'extrême argent. C'est pas rien pour ouvrir un chemin d'espoir et de victoire. De victoire, à la fin, c'est nous qu'on va gagner, c'est mon slogan, mais c'est à 20, c'est les Français qui doivent gagner.
Voilà, c'est nous qu'on va gagner. C'est un slogan, on va dire, qui est bien parti. Je ne sais pas qui veut répondre.
Non, mais enfin, franchement, c'est risible, pardon. Il dit, parce qu'un candidat commun, il vient de créer sa propre écurie présidentielle, oui. François Ruffin. Donc, moi, un candidat commun, je le souhaite pour la gauche, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très bien parti en l'absence, comme l'a rappelé Roselyne, de Mélenchon. Raphaël Glucksmann, qui sont pour l'instant crédités dans les sondages d'un potentiel à peu près de 10% chacun. Et par ailleurs, il n'y a pas non plus l'autre gauche, la gauche sociale-démocrate, celle de François Hollande, de Nicolas Magnin-Rossignol, Carole Delga, etc. C'est une partie, de la gauche.
Olivier dans la démarche, il y a le Parti Socialiste.
Il y a Olivier Faure.
C'est le Parti Socialiste. Il représente le Parti Socialiste. Il y a aussi Johanna Roland, etc.
Carole, vous voulez parler de ligne. D'Olivier
Faure.
Mais n'empêche que les gens que vous citez, ils sont toujours au Parti Socialiste et c'est une démarche qui implique le Parti Socialiste.
Catherine de ses arguments.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, François Ruffin a créé son parti, mais il s'inscrit dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il appelle à une primaire et c'est probablement ce qui va avoir lieu. C'est-à-dire que les socialistes auront un candidat, ils l'ont annoncé hier. Les écologistes auront un candidat, ils l'ont annoncé hier. Clémentine Autain sera candidate. François Ruffin sera candidat. Et tout ça, ça fait au moins déjà quatre candidats pour une primaire. Mais l'idée, c'est d'avoir une candidature commune de ces différents partis. Ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas une somme de divisions, c'est en fait une convergence vers une candidature commune, malgré le fait que tout le monde... pour l'instant,
mais
c'est sur ça...
Mélenchon part en solitaire, on est d'accord.
Par contre, je voudrais préciser quelque chose.
Aussi.
En effet, Glucksmann, pour l'instant, ne veut pas relier le bateau. Néanmoins, Raphaël Glucksmann n'est pas complètement indépendant du Parti Socialiste. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann, sans... l'appui des socialistes, de l'organisation, des élus, etc. Ce n'est pas parti gagné pour Raphaël Glucksmann. Il discute d'ailleurs avec Olivier Faure. Et si la mayonnaise
Donc vous avez l'air de dire qu'il a tout intérêt à rentrer dans cette
prison. Ce que je dis, c'est que pour l'instant, il ne le souhaite pas, mais il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas dit non absolument. Ce qu'il a dit, c'est « je ne veux pas avec la France insoumise ». Or, ça, je crois qu'il faut se faire une idée claire, c'est qu'il y aura sans doute la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et une candidature commune. Alors, est-ce que cette candidature commune, elle embrassera Raphaël Glucksmann ? Moi, je ne crois pas à une possibilité pour Raphaël Glucksmann tout seul. Donc, il y aura Raphaël Glucksmann probablement ou pas. Oui. Soit Raphaël Glucksmann montera dans le bateau, soit il ne fera rien. Ça, c'est la première chose. Et je dirais la même chose pour Fabien Roussel. Fabien Roussel ne peut pas partir tout seul. Ou bien il monte dans ce bateau-là, ou bien il ira prendre 2% à l'élection présidentielle, ce qui ne fera que confirmer l'état de mort politique du Parti communiste. Ouais. Donc, moi, je crois que cette convergence-là, elle est bien engagée parce qu'en fait, hier... par rapport à ce que disait Carole, hier, c'est le secrétaire national du Parti socialiste qui vient d'être élu, qui est venu s'engager et qui a dit « je soutiendrai quel que soit le candidat qui sortira de cette primaire ». Donc, et les écologistes aussi. Donc c'est quand même les deux.
Mais d'ailleurs, c'est ce que souhaitait Olivier Faure depuis le début.
Il a été élu pour cela et il le fera. Donc je pense qu'il y a la légitimité des appareils, des votes dans les partis, etc. Et les élus du Parti socialiste, quoi qu'ils en pensent par ailleurs, vont suivre leur parti.
Alors Jean-Marie, pour reprendre la grammaire de François Ruffin, qui c'est qui peut gagner ?
Que voilà une bonne question. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par Catherine, même si je sens bien qu'elle y met toutes ses convictions.
Non.
Mais moi, je repars du congrès du Parti socialiste. Le congrès du Parti socialiste a vu la victoire in extremis d'Olivier Faure. Et donc, la conséquence de cela, c'est à gauche toute. C'est-à-dire qu'on va faire de la surenchère vis-à-vis de la gauche mélenchoniste, dont on ne va pas s'allier avec les Mélenchons, mais on va essayer de lui contester son leadership, donc on va aller à gauche toute. Et donc la préoccupation principale des dirigeants socialistes aujourd'hui, façon Olivier Faure, c'est d'éliminer Glucksmann, c'est d'éliminer Raphaël Glucksmann et d'éliminer la ligne que Raphaël Glucksmann a portée aux Européennes et pourrait porter à nouveau, c'est-à-dire une ligne en gros social-démocrate. Cette bagarre-là, elle est mortifère pour la gauche, et elle est déjà engagée par Olivier Faure, me semble-t-il. Alors évidemment, le décorum, c'est un candidat, on m'a dit un candidat unique, mais surtout pas Glucksmann ou quelqu'un de sa mouvance. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Stéphane, vous voyez les choses
Moi, il y a l'arithmétique. On va remettre les. Je vais dire des choses que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais 2027, c'est très loin. Il peut se passer 3 milliards de choses d'ici là, et tout le paysage national, international va changer, etc. Donc voilà, il n'y a pas de certitude, mais si on s'en tient aux projections d'aujourd'hui, etc., aux statistiques, aux études et compagnie, on sait que le candidat ou la candidate du Rassemblement national sera au second tour, comme en 2022, comme en 2017. Voilà, c'est une certitude.
Vous dites qu'il faut quelque chose de solide en face.
La question, c'est qui occupe l'autre strapontin ? Et la réponse, c'est que pour avoir le deuxième siège, s'il n'y a pas d'unité dans les différents camps, c'est mort. Il va y avoir une ventilation façon puzzle des voix. Et là, tout peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Et donc aujourd'hui, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui se dit, moi, si je suis identifié comme le candidat utile à gauche, etc., ça peut passer, à quelques dizaines de milliers de voix près, par exemple. Mais ça peut passer, et je peux accéder au second tour, et je peux gagner, donc j'y vais tout seul.
Pour enlever, je peux gagner.
Parce
qu'il est devenu.
Je suis d'accord avec vous, Jean-Marie.
Il peut accéder au second tour.
C'est son raisonnement. Vous avez le reste de la gauche qui se dit c'est pas possible. Il y a le cas particulier des communistes qui savent pas sur quel pied danser parce qu'ils sont toujours dans. Ça a été très bien décrit par Catherine. Le problème des communistes, c'est l'effacement, c'est l'invisibilisation, c'est l'effondrement total de ce parti, malheureusement. Et donc il se dit il faut qu'on ait quelqu'un pour porter nos couleurs parce que sinon. C'est fini, on va vraiment mourir. Le problème se pose aussi à droite, se pose aussi au centre. Et en fait, s'il n'y a pas d'union, ça ne colle pas. Le vrai problème, c'est que vous pouvez avoir une primaire et que, en fait, la personnalité qui soit choisie par les primaires, tout le monde dit « on est derrière toi, vas-y coco », et qu'en réalité, tout le monde se débine, comme ça a été le cas pour Anne Hidalgo, comme ça a été le cas pour Benoît Hamon. Donc voilà, on est
merci pas de cette précision et on accueille Véronique Reissoult. Bonjour ma chère Véronique, comment allez-vous ?
Bonjour.
Et comme chaque semaine, vous nous emmenez aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est votre destination préférée.
Non, je ne voulais pas terminer la saison sans maintenir ce petit moment Trump. Ça va vous manquer sinon. Donc là, j'ai pris pour vous illustrer ce petit moment Trump et qui explique pourquoi chaque semaine je vous embête avec ça. Il y a un internaute opposant américain à Donald Trump qui résume bien les choses. Alors, on voit pas, mais il a publié en disant « Yes, he's completely il est complètement fou, regardez ». Et là, il a posté ça sur... C'est Trump lui-même qui poste ça sur son compte. Voilà, bon, ben, comment vous dire ? Voilà, quoi. Donc, moi, je trouve que on ne peut pas se priver de ça. On n'a pas ça en France.
Non, c'est pas dommage.
Là, je voyais, vous étiez un petit peu bluesy, tout sur « ça va pas », les politiques françaises et tout, mais on pourrait avoir ça, quoi. franchement, moi, je dis « voilà », quoi. Parce que c'est... Voilà.
Il y a de se comparer. On ne se déçoit pas.
C'est toujours important de se comparer, parce que tout d'un coup, on se dit « non, ça n'est pas si terrible ». Alors, il y a les blagounettes comme ça, ou quand même, bon, c'est improbable. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment improbable, ce passage. Après... Il y a aussi les actes et les déclarations, Monsieur Trump, qu'il faut quand même jamais oublier. Alors cette semaine, ils en ont fait une pas mal. La dernière en date, c'est on va voir l'alligator Alcatraz. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Il a donc annoncé qu'il allait mettre en place un centre de détention improvisé qui va être construit début juillet sur l'ancien aéroport de Dade Collier, sur la réserve de Big Cypress, à peu près 60 km de Miami. C'est pour à peu près accueillir 5000 personnes, donc des migrants illégaux, et ça sera battu à peine en 8 jours avec des barbelés, des caméras, du personnel qui sera armé, des terrains marécageux et des alligators, parce que ce sont les alligators qui vont faire en sorte que les migrants ne partent pas. C'est un plan qui fait partie intégrante de sa stratégie migratoire agressive, un modèle du genre, n'est-ce pas, effet spécial, où la peur de la faune locale sert de levier symbolique aux expulsions. Autant vous dire que les uns et les autres, autant tout à l'heure ça nous faisait rire, là ça fait beaucoup moins rire. Mais alors le cynisme de cet homme ne s'arrête pas là. Donc pour ça je dis, je peux pas me passer de vous en raconter. On va passer un petit bout, alors c'est en anglais, mais je vais vous dire en gros ce qu'explique très tranquillement Monsieur Trump. On lui pose des questions à partir de ça. Il dit, mais vous savez, je vais vous donner des conseils pour les futurs prisonniers. Quand ils veulent s'évader, il faut courir en zigzag et surtout pas en ligne droite parce que l'alligator, il sait pas courir en zigzag, donc ça va augmenter vos chances d'évasion de 1%. Véridique, je vous invite à aller écouter. Là, on se dit, ah ouais, quand même, il se passe des trucs aux États-Unis. Donc voilà, donc sa cruauté a été illustrée un peu partout. Donc il y a des petits dessins qui montrent que l'alligator pourrait donc être un animal de compagnie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la campagne, on en avait parlé, les animaux de compagnie qu'il fallait protéger parce que les gens les mangeaient. Et puis, il y a certains qui proposent une solution fabriquée certes avec l'IA, mais qui finalement est un peu en mode tel est pris qu'ils croyaient prendre. Ben écoutez, pourquoi pas pourquoi pas. Voilà.
Non, le feuilleton à suivre, je dis ça pour Véronique, c'est quand même la résurgence de la bataille avec Elon Musk.
Ah non, mais parce que là,
ça atteint des sommets et il faut espérer que ça va. Le feuilleton va continuer.
Ah non, mais il continue parce qu'il y avait encore des trucs cette nuit. Ils se sont bien.
Il a traité de vieux cochon, c'est ça
Non, mais c'est énorme, je vous assure. Et en plus, il y en a. Les deux, ils sont.
Elon Musk apporte avec lui des accusations très graves contre Trump. Et qui sont normalement redevables de la justice. Donc on
de l'impeachment, en tout cas, clairement. Mais,
voilà. Alors,
j'essaie de choisir un peu plus léger, parce que ça va loin dans les accusations.
Seriez-vous capable de faire atterrir un avion ?
Mais je vous pose la question à chacun.
Non. Malheureusement, non. Je sais qu'il y a des jeux vidéo, ça, mais...
Eh bien, écoutez, figurez-vous que... vous allez me dire, c'est pas très politique comme question. En même temps, vu ce que vous racontiez tout à l'heure, le gouvernement, le Parlement, peut-être qu'il se pose la question, est-ce qu'on serait capable de faire atterrir un avion en cas d'urgence, on entend bien. Eh bien, figurez-vous que c'est une question que beaucoup se posent. Et je vous laisse regarder sur TikTok, il y a toute une campagne en ce moment. En gros, c'est un sondage fait par YouGov auprès de 20 000 personnes qui a été fait en 2023 et qui dit que 54% des hommes, quand on leur dit en cas d'urgence, est-ce que vous seriez capable de faire atterrir un avion, eh bien oui, ils disent pas de problème. Donc, comme en politique, on a souvent des hommes, je vous laisse faire le petit parallèle politique. En gros, c'est ce qu'on appelle avoir trop confiance en soi. Donc, il y a eu plusieurs vidéos YouTube qui montrent le sujet parce que les YouTubeurs et les YouTubeuses ont posé la question. Alors, il y en a une qui est Pete Schemel qui a posé la question à son amoureux. Eh bien, comment vous dire ? Il a répondu oui. Donc elle est un petit peu désespérée. Globalement, les uns et les autres répondent oui, effectivement. Donc c'est devenu une tendance sur TikTok de se poser la question et les hommes répondent oui. Normalement, la question que vous devez me poser, c'est les femmes, c'est quoi le pourcentage d'après vous?
Je crois que vous faites partie de ce pourcentage-là, vous savez.
Alors moi, je sais, mais parce que j'ai un brevet. Là, on parle des gens qui n'ont pas de brevet. Et donc, d'après vous, combien? 20% seulement des femmes, on est beaucoup plus réaliste. Oui, je ne sais pas.
Quand on prend l'avion, il faut qu'on embarque Véronique.
Il y avait un petit côté politique quand même de l'atterrissage forcé d'urgence. Eh bien, les hommes pensent qu'à 54%, ils peuvent le faire easy, wheezy. Je vous invite à aller regarder sur TikTok les réponses des garçons qui ne doutent de rien. Voilà.
Et François Bayrou, il va atterrir?
Moi, je vous dis, en politique, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça explique peut-être ça. Je ne sais pas.
Merci beaucoup Véronique, merci. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique et à vous tous pour cette émission. À très vite.